I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mesdames et messieurs,
êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bienvenue dans C'est qui la plus forte, votre rendez-vous dédié à la bagarre. Dans C'est qui le plus fort ou C'est qui la plus forte, on s'amuse à opposer des personnages de fiction, des animaux, des actrices, des acteurs, des personnalités historiques qui n'ont en temps normal aucune raison de s'affronter. Pour le simple plaisir de l'exercice et pour découvrir des choses de manière ludique, nous allons au bout de ces oppositions imaginaires avec l'aide d'une experte ou d'un expert qui sera notre guide et nous aidera à répondre à la question « C'est qui la plus forte ?». Aujourd'hui, on va mettre en scène l'affrontement de deux bienfaitrices de l'humanité. Car oui, on peut faire le bien autour de soi et se bagarrer, c'est comme ça. Mesdames et messieurs, à ma gauche, Angese Gonsu Boxiajou, prononciation totalement random, dite Mère Teresa. Et à ma droite, Madeleine Cinquin, dite Sœur Emmanuel. Pour arbitrer ce combat, j'accueille une experte, Noémie des podcasts So It Is et Parenthèse, qui est aussi historienne à 16 heures perdues et qui connaît super bien Dieu. Salut Noémie, ça va ?
Salut !
Noémie, merci d'avoir accepté de arbitrer ce combat entre deux bienfaitrices de l'humanité. C'est plutôt rare de les voir se foutre sur la gueule, mais pourtant ouais. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de monter sur le ring, est-ce que tu te sentirais de rappeler un petit peu qui est qui ?
Qui est qui et qui fait quoi ?
Ouais.
Alors, on va commencer par la plus vieille d'entre elles, Sœur Emmanuelle, qui est née en 1908 à Bruxelles, dans une famille relativement aisée, et qui passe une carrière chez les petites sœurs des pauvres, une carrière, le terme est faible, une vocation chez les petites sœurs des pauvres, où elle s'investit très rapidement, et dès ses 18 ans, en fait. Et elle va être enseignante pendant toute sa vie. Et à la retraite, vers 1971, elle prend une décision qui est de s'intéresser aux pauvres, et notamment aux pauvres en Égypte. Donc elle va là commencer la carrière pour laquelle on la connaît le plus, son engagement auprès des chiffonniers du Caire. Et c'est là-dessus qu'on va la connaître le plus et qu'elle va faire... qu'elle va essayer d'attirer le regard des gens sur la situation des chiffonniers du Caire. Donc ça, c'est pour Sœur Emmanuelle, Madeleine Cinquin, dite Sœur Emmanuelle, et l'autre, Mère Teresa, que je vais appeler Mère Teresa parce que je ne prononcerai pas son nom albanais,
oui.
Parce que c'est trop compliqué. Alors, Mère Teresa, elle naît en 1910 à Skopje, et elle meurt à Calcutta. Et elle fonde carrément son ordre. Au début, elle s'engage dans l'ordre des sœurs de Notre-Dame de Lorette. Elle va aussi avoir, comme sœur Emmanuelle, une carrière d'enseignante. Puis, là aussi, elle va être touchée par la pauvreté. Et elle va créer, en 1950, les missionnaires de la charité. Qui vont se développer, hein. Il va y avoir des missionnaires de la charité, d'abord un ordre féminin, puis un ordre masculin, puis des prêtres, etc. etc. Et donc elle va dédier sa vie à aider les pauvres, et notamment les pauvres mourants, en créant des mouroirs en Inde.
Très bien. Bon, bah maintenant qu'on sait qui est qui, on va faire comme on fait à chaque fois. Il va y avoir 5 rounds, et à chaque fois, on va donner le point d'un côté ou de l'autre. Et ma foi, au bout de ces 5 rounds, on saura forcément qui est la plus forte.
C'est ça.
Alors,
Toujours fâché avec le bon Dieu?
Oh, pour croire en Dieu, curé, il faut croire aux hommes. Mais quand vous parlez de la charité des hommes, moi, ça me fout le voile rouge. Je préfère mes chiens.
Alors, premier round, qui a été, selon toi, la plus honorée?
La plus honorée, au niveau des honneurs aussi bien profanes que religieux, il me semble que c'est Mère Teresa, puisque Mère Teresa, elle va recevoir un prix Nobel de la paix en 1979, et elle va être béatifiée et canonisée, mais ça on en parlera plus tard, et elle a reçu un nombre de prix incalculable tout au long de sa vie. Elle va être très médiatisée recevoir énormément de prix, énormément d'honneurs pour tout son travail auprès des pauvres. Alors que Sœur Emmanuelle est un peu moins honorée, néanmoins, elle va recevoir la Légion d'honneur, elle va plutôt avoir des prix autour de la France. Voilà. Sœur Emmanuelle est plus une figure francophone, alors que Mère Teresa va avoir une aura complètement mondiale.
D'accord.
Donc le point est largement pour Mère Teresa, on peut difficilement battre un prix Nobel de la paix.
Bon, si elles étaient toutes les deux sur Twitter, probablement que Mère Teresa aurait eu plus de followers.
Ouais, déjà Mère Teresa, je pense qu'elle tweeterait en anglais et ça irait mieux, quoi.
Bon, ok. 1-0 pour Mère Teresa.
Mais pour qui prenez-vous cet homme? Dieu? Non, Dieu aurait pitié. Lui, non.
Alors, on va passer à quelque chose de déjà un petit peu plus subjectif, mais on est là pour ça. Laquelle a fait le plus de bien? Noémie soupire.
Ouais, je soupire. C'est un petit peu difficile parce que, en termes de chiffres, l'Inde, forcément, ça marque. Il y a beaucoup de gens en Inde. Et Mère Teresa va avoir une congrégation, comme j'ai dit, les missionnaires de la charité, qui va s'étendre aussi bien aux USA qu'en Inde, aussi qu'en Albanie. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de fondations. Et à l'heure actuelle, cet ordre-là est très présent, y compris en France, et va faire beaucoup de bien. La question du bien est compliquée parce que Mère Teresa a un rapport très particulier à la souffrance. Et on en reparlera plus tard, mais c'est pas quelque chose qu'elle combat, la souffrance. Elle vit la souffrance de façon chrétienne, avec une certaine perception, où elle va dire que la souffrance, c'est une façon de s'unir au Christ. Et donc, elle va pas chercher l'extinction de la souffrance du tout. Alors que Sœur Emmanuelle va avoir un rôle beaucoup plus d'éducatrice et va être impliquée, plus aider, je pense, les gens à sortir des conditions de pauvreté. Ce qui n'est pas du tout l'objectif de Mère Teresa, qui est de donner aux gens qui vont mourir une dignité. Elle ne va pas les empêcher de mourir, de toute façon, elle ne peut pas, et elle n'avait pas forcément les moyens. Mais elle ne va pas chercher à les sauver, alors que Sœur Emmanuelle va faire un travail un peu plus social sur le terrain, où elle va réhabiliter des bidonvilles, elle va faire en sorte qu'ils aient de l'eau, de l'électricité, des formations, et avec plus quelque chose de l'ordre de la croissance et de l'aide, d'une aide plus concrète, alors que voilà, que Mère Teresa va être plus dans l'accompagnement et d'une certaine présence à la mort, mais moins dans l'extinction de la souffrance, on va dire. Donc c'est difficile parce que Mère Teresa touche énormément de monde, mais quand même, je dirais que sur la question de la souffrance, Sœur Emmanuelle, elle a plus une volonté de sortir les gens de la souffrance et de les aider à construire une vie meilleure.
Bon, très bien.
Un point un peu disputé. Si on pouvait mettre des demi-notes, je mettrais un 0703 ou quelque chose comme ça.
Ouais, mais il faut choisir.
Non, il faut choisir, donc Sœur Emmanuelle.
C'est le sport, c'est comme ça.
Merde, comment elle fait? On dirait une Mère Teresa à la con.
Alors, question suivante. Laquelle est la plus swag?
Le swag, c'est compliqué parce que Sœur Emmanuelle, elle a un côté hyper accessible. Elle est marquante hein, quand on la voit à la télé. Elle est en basket, elle a un foulard sur la tête. Elle dit tu à n'importe qui, que ce soit Jacques Chirac, le présentateur télé ou des enfants autour d'elle. Elle a un côté vraiment contact hyper simple. Mais sur le swag, Mère Teresa, elle fonde un ordre, donc elle crée. Elle crée un uniforme et elle crée ce sari blanc et bleu que on reconnaît instantanément. Ce sari blanc, il reprend à la fois les vêtements des indiennes, donc qui c'est un vêtement qui permet aux sœurs de se fondre, enfin de montrer leur appartenance à l'Inde. Les bandes bleues et blanches, c'est donc pour leur vœu. Hein, la plus grande, c'est pour la bande de la charité, puisque c'est ce qu'elles font vraiment. Et les deux autres bandes, c'est pour l'obéissance et la chasteté. Donc, et ce costume, cet habit de religieuse, on peut le reconnaître entre mille, c'est elle qui le crée, qui se le procure, qui se le brode elle-même, enfin qui le fabrique elle-même. Donc sur le swag, sur la création en termes de mode, je pense que Mère Teresa est devant parce qu'elle, voilà, elle crée une espèce d'icône hein, qu'on va retrouver au moment de sa canonisation. Il y a un logo qui est fait et la seule chose qu'on voit, c'est vraiment ces bandes bleues qui vont marquer tout le monde et qui vont être physiquement, voilà, qui marquent la rétine et qui font qu'on reconnaît immédiatement des sœurs de la missionnaire de la charité, qu'on appelle même maintenant plutôt les sœurs de Mère Teresa qu'autre chose, quoi. Et elle va avoir une empreinte hyper forte.
C'est les trois bandes les plus connues au monde après celle d'Adidas, en fait.
Ouais, carrément.
Bon, ok, donc 2-1 pour Mère Teresa. Puisqu'on est dans la bagarre, tout le monde a envie de savoir, dans un octogone sans règles, dans un combat de boxe, qui gagnera un combat à main nue.
Ah ouais, quand on a posé la question, je me suis dit, mais ces deux vieilles dames, elles vont pas se taper à coups de canne.
Elles n'ont pas toujours été vieilles.
Elles n'ont pas toujours été vieilles. Donc du coup, je me suis penchée sur les photos de leur jeunesse pour essayer de déterminer, voilà, au niveau musculature, etc., etc. Elles viennent toutes les deux de familles un petit peu aisées, donc elles n'ont pas eu trop de problèmes de malnutrition dans leur enfance. Mais quand même, sur les photos, Madeleine 5-1, elle est plus carrée.
Ah.
Donc je pense que sœur Emmanuelle, elle met la pâtée à Mère Teresa. Mais en même temps, si on oppose les chiffonniers du Caire et les Indiens, là aussi, il y a débat, je sais pas. Mais je pense que vraiment, physiquement, sœur Emmanuelle, elle est au-dessus. Voilà. Mais en plus, si on essaye de comparer, même si on leur fait un combat à leur fin de leur vie, sœur Emmanuelle avait plus d'endurance, puisqu'elle est morte à 99 ans, alors que Mère Teresa est morte à 87.
D'accord.
Donc c'est deux vieilles dames. Mmh. Mais quand même, sœur Emmanuelle, elle, à mon avis, elle la bat sur tous les tableaux. La sainte de Skopje, quoi.
Bon, puisque tu parles de sainte, on va passer à un des gros morceaux de notre émission. Qui est la plus sainte? On rappelle qu'on est à 2-2. Hein.
Ah, on est à 2-2, mais là, la question se pose même pas. C'est évidemment Mère Teresa, puisqu'elle a été béatifiée le 19 octobre 2003 par Jean-Paul II. Alors, il faut savoir que ça, c'est extrêmement rapide. C'est à peine 6 ans après sa mort. Ça n'arrive quasiment jamais. Donc, comment ça se passe pour créer des saints? Il faut faire ce qu'on appelle c'est comme ça que ça s'appelle.
Ah oui,
c'est
oui,
tout
oui.
Un processus, c'est hyper compliqué. Donc, normalement, il y a une période de latence de 5 ans. Après la mort, où on se pose, on attend. Et là, Jean-Paul II, il est tellement fan de sa copine Mère Teresa, parce que Mère Teresa, c'est quand même, elle a un petit côté... Un petit côté fashion, elle est copine avec tout le monde.
Hein.
Elle
D'accord.
est copine avec les Didi, elle est copine avec Jean-Paul II, elle fait la bise à tout le monde, on la voit sur tous les podiums. Elle est un peu classe.
Elle est un petit peu people, tu veux dire.
Un petit peu people, ouais. Elle sait où, elle va pas perdre de vue ces histoires de collecte d'argent, on en reparlera plus tard, mais vraiment, voilà, on la voit un peu partout et c'est là où on revoit les bandes blanches. Donc après, comme elle est vraiment copine avec Jean-Paul II, à sa mort, Jean-Paul II dit « Tata, pas de 5 ans, on attaque tout de suite le procès en béatification. » Alors pour le procès en béatification, qui va permettre d'être bien heureux, les règles sont simples, c'est-à-dire qu'il faut une étude de tout ce qu'on va avoir écrit, de toute la correspondance, etc., pour vérifier que tout va bien, qu'on est carré, quoi.
On est bien sous tout rapport.
Bien sous tout rapport. Et il faut un miracle.
Ah oui, oui, oui.
Voilà. Alors, pendant cette étude, avant la béatification et avant la canonisation, c'est là qu'on va découvrir un point hyper important de la vie de Mère Teresa, qui est sa nuit de la foi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'elle aussi. C'est que, grosso modo, elle dit qu'à partir du moment... pendant quasiment 50 ans, les 50 années de sa vie, elle ne va plus... alors, elle va croire... Mais elle va plus ressentir le Christ. Elle a un rapport très charnel avec le Christ, puisque le 10 septembre 1946, alors qu'elle fait un voyage de Calcutta vers Darjeeling, elle ressent l'appel du Christ vers les pauvres. Mais elle le décrit dans ses lettres, là, c'est là où on le découvre dans ses lettres. Hein. Elle le ressent vraiment comme un appel physique. Elle entend la voix du Christ. Et assez rapidement, elle va plus du tout avoir cette intimité avec le Christ qui est hyper importante pour elle, parce que elle le dit dans ses écrits, la vie auprès des pauvres, c'est hyper important pour elle, mais elle n'a de sens que s'il y a une vie de prière. Et c'est pour ça qu'elle dit à ses missionnaires de la charité, si le temps de prière, donc grosso modo je crois que c'est 1h le matin, 1h le soir chez les sœurs de la charité, c'est pas du temps que vous volez aux pauvres, c'est ce qui vous permet de tenir en fait. Et donc elle a ce rapport vraiment fort à la prière, qui est d'autant plus fort que, voilà, sur toute la fin de sa vie, sur toutes les 50 dernières années de sa vie, elle ne va plus entendre Dieu. Elle va continuer à aller à la messe, elle va continuer à aller se confesser, à prier, mais elle dit qu'elle se sent vide, qu'elle ne sent plus le Christ en elle, et ce qu'elle va dire, et ce qui est assez beau, c'est qu'elle dit que si elle devient une sainte, elle deviendra une sainte des ténèbres. Elle se sent vraiment... elle se sent mal, enfin physiquement, elle dit bah, je ne sens plus le Christ, je ne sens plus ma raison de vivre. C'est un peu, elle décrit, mais ça c'est souvent chez les moniales et chez les sœurs depuis Sainte Thérèse de Lisieux ou même Thérèse d'Avila, elles ont un rapport charnel au Christ. C'est pas pour rien qu'on dit qu'elles sont mariées avec le Christ. Voilà, Thérèse d'Avila, elle aura des visions où clairement c'est des scènes d'extase. Presque sensuelle. Enfin, quand on voit la statue du Bernin, c'est marquant. Elles ont un rapport charnel à Jésus. Et Mère Teresa, elle va perdre ça, tout en continuant à s'astreindre à la prière, à la messe, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un point important qu'on va retrouver dans ces lettres qui vont poser question au moment de sa béatification, en disant, mais est-ce qu'on peut béatifier quelqu'un qui dit qu'il ne ressent plus Dieu et qu'il n'y croit plus? Et la réponse qu'on va avoir la plupart des chrétiens, et en tout cas le comité de béatification, parce que c'est là qu'on a un avocat du diable. Un avocat du diable, c'est pas une expression en l'air, il y a vraiment un avocat du diable pendant les procès de béatification. C'est génial.
Et comment on fait pour devenir avocat du diable? Quelle est la filière?
Il faut être très très bien en vue auprès du Vatican. Mais écoute, on va arranger ça après. Moi et mon bro Jésus, on va essayer de te pistonner. Et donc, parce qu'il y a un postulateur de la cause de béatification qui va être celui qui, en général, qui va dire, bah voilà, elle a fait ça de bien et tout. Et puis en face, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais là, ça n'allait pas. Donc dans ses écrits, on découvre cette phase de nuit de la foi. Et le Vatican va passer là-dessus en disant, bah voilà, c'est ça qui est beau finalement, c'est qu'elle... Elle avait choisi cette voie-là et elle l'a continuée, même si elle n'avait plus ce rapport intime avec le Christ. Elle était engagée et elle a continué, même après tout ça. Ça en fait une figure... là, c'est touchante, moi, cette question de la nuit de la foi. Moi, ça me parle aussi, parce que je me dis, bah voilà, des fois, c'est pas évident d'être chrétien ou de croire en Dieu. Et elle l'a vécu et elle a fait des choses qui étaient relativement dures, parce que j'imagine que vivre dans les bidonvilles de Calcutta, c'est pas évident. Et elle a continué malgré ça. Donc,
je te pose une question. Est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'elle disait qu'elle avait soif de Jésus, ou c'est...
Alors non, c'est au moment où, au moment de ce qu'elle appelle le jour de l'inspiration, c'est Jésus qui lui dit j'ai soif.
Ah pardon.
C'est Jésus qui lui dit j'ai soif. C'est une parole que Jésus il dit en croix.
D'accord.
Et donc au moment où il va mourir, et à ce moment-là, donc les longins. Longinus, tout, n'importe qui a joué aux jeux vidéo a toujours croisé un longin.
Ou qui a regardé Evangelion.
C'est ça. lui apporte une éponge avec du vinaigre et de l'eau et lui donne à boire. Et donc c'est à un moment là où elle entend cette voix qui lui dit j'ai soif, où elle se sent appelée auprès des plus pauvres, qu'elle considère comme être une image du Christ souffrant. Hein. C'est là où on relie cette question difficile de son rapport à la souffrance. C'est parce que le Christ lui dit j'ai soif qu'elle se sent appelée à nourrir et à donner à boire et à donner une dignité au moment de la mort aux mourants.
Voilà. D'accord.
Et donc, après cette béatification, il y a eu la canonisation le 4 septembre 2016 par François. Donc maintenant, c'est Sainte Mère Teresa. Mmh. Alors, même si le pape François invite tout le monde à continuer à l'appeler Mère Teresa. Mmh. Quoi, parce que...
faut pas déconner non plus.
Non, elle a, il est un peu comme ça, François, il considère que voilà, elle a pas besoin du nom de sainte et que Mère Teresa c'est très bien. Sa fête c'est le 5 septembre, vous le saurez.
D'accord.
Et donc la canonisation réclame un deuxième miracle.
Quel était le premier du coup ?
Alors le premier, il est un peu sujet à caution, c'est une guérison d'une femme avec une tumeur. Mm-hmm. Mais là aussi, donc parce que on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais il y a eu des enquêtes un peu à charge contre Mère Teresa, et donc cette tumeur aurait été résorbée, mais la personne prenait un traitement antituberculeux. Mmh. Donc peut-être que c'est le traitement antituberculeux qui a fait résorber la... Mmh.
La tumeur.
La tumeur, donc voilà. Bon, les miracles, c'est toujours un peu compliqué aujourd'hui.
Oui.
Les miracles médiévaux étaient plus simples, c'est-à-dire que voilà, il suffisait de ressusciter un enfant quelques secondes pour que ça marche, et c'était assez facile. Maintenant, les miracles, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que il y a un tout petit peu moins de canonisation, même si François canonise énormément.
D'accord.
Voilà. En sachant qu'il y a un fast track pour les canonisations et les béatifications, qui est le martyr. Je vous le signale si jamais vous avez une envie de canonisation rapide. Si vous mourrez en martyr, il n'y a pas besoin des miracles et tout, c'est rapide.
C'est marrant comme les mêmes schémas finissent par se retrouver un peu partout d'une religion à l'autre, c'est curieux. C'est étonnant. Bref. Bon, donc, Sœur Emmanuelle, point de béatification.
Alors, la béatification, c'est ouvert.
C'est en cours.
Donc, ça risque d'être un peu plus long. Il faut savoir que les procès en béatification, il y en a que ça peut durer 1, 2 siècles, 3 siècles.
Faut pas être pressé.
Non, faut pas être pressé. Jeanne d'Arc, par exemple,
C'est toujours en cours ?
Non, elle est sainte, mais elle est sainte d'accord. Au 19e, alors qu'elle est morte au 14e. Ah oui.
Ça, c'est l'administration.
Oui. Non, puis c'est aussi un tout petit peu compliqué pour l'Église de béatifier ou de canoniser quelqu'un qu'on a condamné pour hérésie. C'est un peu tendax.
C'est pas faux.
Donc là aussi, ça a été un peu compliqué comme procès. Mais oui, donc la sœur Emmanuelle, la béatification serait en cours, mais c'est un peu long et puis c'est un peu compliqué aussi parce que dans ses écrits, elle a certaines positions qui sont pas tout à fait en accord avec la morale catholique. Donc des fois, ça peut retarder un peu les choses.
Vous ne craignez pas d'avoir été un peu vif ?
Je suis toujours un peu vif quand l'honneur d'une dame est en jeu.
Cette réponse vous honore, docteur.
Mais vous, monsieur l'abbé, un homme d'église...
Oubliez-vous la façon dont le Seigneur a chassé les marchands du temple.
Bon, écoute, ça nous fait 3-2 pour Mère Teresa.
Ça nous fait 3-2 pour Mère Teresa.
Mère Teresa remporte ce combat. Mais j'ai envie de jeter mon...
Ton bateau.
De jeter un veto, là, comme ça. Tac ! Est-ce qu'on a vraiment... Est-ce qu'on a tout regardé ? Est-ce que dans notre propre procès en béatification, dans ce combat, on a vraiment tout regardé ? Ou est-ce qu'il n'y a pas des éléments là qui pourraient nous ouvrir un troisième round ? Le round des casseroles ?
C'est ça. Eh bien oui, il y a des casseroles. Et là, ouais. Pour le coup, Sœur Emmanuelle est quasiment vierge de casseroles. Ah si, j'ai trouvé un truc.
Ah.
C'est pas vraiment une casserole, mais en tout cas, ça m'a fait rigoler. C'est que elle est considérée comme avoir influencé la campagne de Jacques Chirac sur la fracture sociale en 1995 avec Geneviève Antonios de Gaulle, et ça m'a bien fait rigoler.
D'accord.
Et ça, j'ai trouvé bon. Que... Alors, c'est pas une vraie casserole, mais j'ai trouvé ça marrant.
Si sa pire casserole, c'est d'être chiracienne, ça va.
Ça va. Mais par contre, Mère Teresa...
Il y a controverse.
Il y a grosse controverse.
Ouais.
Et la controverse a commencé de son vivant, donc avec, en 1979, au moment où elle reçoit son prix Nobel... Elle commence par faire un gros, gros discours contre l'avortement. Ce qui passe assez mal. En 79, on n'est pas vraiment dans l'ambiance... Donc son discours contre l'avortement qui se conçoit, hein, pour des catholiques, on va pas lui demander d'être pour le fait que tout le monde baise à tout va, hein. c'est pas l'ambiance de toute façon, a priori. J'ai vérifié récemment avec le pape François, c'était pas l'ambiance non plus. Donc bon, on se conçoit qu'elle dise ça, mais il faut savoir que bon, quand même, Mère Teresa, elle vient d'un monde assez... Enfin, voilà, Mère Teresa, elle est née dans l'Empire Ottoman en 1910, dans un monde sans électricité, donc c'est pas non plus la femme la plus moderne qui soit. Et donc sur ces positions-là, sur le féminisme et sur l'avortement en particulier, elle va être très rigide et vraiment avoir un discours très anti-avortement, y compris en cas de viol, etc. etc. Et Il va y avoir aussi des critiques autour de la question ben voilà, de la souffrance. Comme elle parle beaucoup de la souffrance comme étant un moyen de se rapprocher de Dieu, elle dit ben, quand vous souffrez, c'est Jésus qui est suffisamment près de vous pour vous embrasser. Et il y a un journaliste qui raconte qu'il y a un des pauvres qui est à côté d'elle qui lui dit ben, dans ce cas-là, faites en sorte qu'il arrête de m'embrasser. Donc oui. Elle a ce rapport à la souffrance ouais. qu'elle vit en chrétienne, mais qu'elle va avoir tendance à, éventuellement à imposer un peu.
Ouais.
Ce qui est un peu difficile à entendre de l'extérieur, où on se dit ben, peut-être que cette vision-là de la souffrance est difficile. Des questions aussi autour du baptême, où elle va être accusée de baptiser beaucoup de gens au moment de la mort. Un peu pour faire des chrétiens, parce qu'elle le dit clairement, son objectif à elle, c'est vraiment de faire des chrétiens. Alors après, là, sa congrégation dit, bah, elle baptise quand on sait pas d'où viennent les enfants, elle baptise quand on sait pas d'où viennent les morts et de quelle religion ils sont, mais sinon, elle va être très respectueuse des mourants et elle va remettre les corps aux imams s'ils sont musulmans et aux prêtres hindous s'ils sont hindous. Mais elle, ceux qui sont non identifiés, elle va les baptiser, elle va les faire baptiser pour qu'ils puissent être enterrés en terre chrétienne, etc., etc. Donc sur ces points-là, il y a un peu des visions qui s'opposent. Donc il y a bien sûr Christophe Hitchens qui va faire des articles et des livres et des documentaires sur la question, sur un peu la face noire de Mère Teresa. Et qui va notamment pointer le fait que elle reçoit des fonds de Jean-Claude Duvalier, hein, de Baby Doc, donc de Ferdinand Marcos, de Fidel Castro. Elle va être très investie auprès d'un de ses amis, Charles Keating, qui est un catholique intégriste américain, et donc elle va défendre lors de son procès. Elle va aller déposer des fleurs sur le fondateur, sur la tombe du fondateur du régime communiste albanais. Donc elle va avoir des amitiés un peu particulières en se défendant toujours en disant bah, « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer de l'argent pour aider les gens. D'où il vient, je m'en fous. » Et on va aussi lui reprocher une attitude un peu ambiguë, là aussi, par rapport à sa morale, c'est-à-dire qu'elle est aussi fermement contre le divorce. Mais quand ça touche sa grande copine Lady Di, elle va... Alors, elle va pas dire « Ok », elle va à minima ne rien dire. Donc, voilà, comme c'est vraiment une figure d'envergure internationale, elle va avoir des détracteurs qui vont aller voir ce qui se passe, et notamment des médecins qui vont dans les mouroirs en disant bah, ouais, mais il n'y a pas d'antalgique dans les mouroirs, donc il meurt dans la dignité peut-être, mais il meurt en souffrant. Et donc c'est toutes ces figures là, c'est tous ces par casserole ou pas casserole, il y a un certain nombre de choses qui s'expliquent de par sa foi et de par son engagement chrétien, mais il y a aussi des choses qui sont plus difficiles à accepter maintenant. Et je pense que les missionnaires de la charité se sont un peu aussi détachés de ce côté-là de la souffrance, parce que chez les missionnaires de la charité, il y a des espèces de binômes qui se créent entre un ou une missionnaire et un ou une malade qui vont prier et offrir leur souffrance pour le missionnaire. Donc ça, c'est des choses qu'on peut comprendre en tant que catholique. C'est un peu plus compliqué à comprendre de l'extérieur tout ce rapport à la souffrance. C'est parfois un peu difficile. Mais après, maintenant, ils sont beaucoup plus dans le soin, notamment avec des cliniques qui vont être ouvertes pour proposer des trithérapies, lutter contre le sida, etc. etc. Donc là-dessus, là, je pense que la congrégation a évolué, alors que Mère Teresa, elle campait sur des positions qui sont aussi, à mon avis, expliquées par le contexte et par son âge aussi.
Parce que du coup, que je comprenne bien ce que faisait Mère Teresa principalement, enfin Mère Teresa et les personnes qui la suivaient, c'était d'offrir une mort digne, ou il y avait quand même une dimension de soins, de faire progresser les conditions de vie.
Alors, elle va avoir cette question de progression des conditions de vie, un peu comme Sœur Emmanuelle, dans l'éducation des filles. Donc au début de sa carrière, quand elle est professeure, elle va faire attention à l'éducation des filles, et là-dessus on peut revenir sur quelque chose que disait Sœur Emmanuelle, qui je trouve intéressant, qui disait éduquer un homme c'est éduquer un individu, éduquer une femme c'est éduquer un peuple. Donc elles sont toutes les deux très attentives à la question de l'éducation des filles pour la progression de la société dans laquelle elles s'implantent, que ce soit au Caire, que ce soit en Inde. Mais le programme de Mère Teresa au départ, c'est que les gens meurent pas dans la rue. Sa vocation, elle vient parce qu'elle voit un gamin se faire bouffer par un chien errant à Calcutta. Donc la question, c'est juste éviter que les gens meurent dans la rue au départ. petit à petit, ça s'est allé vers le soin, mais elle a jamais créé d'hôpitaux. Elle a créé des mouroirs, donc des gens pour que des lieux pour que les gens puissent mourir, et pas des hôpitaux. Donc maintenant, c'est plus le cas, mais au début, son engagement, il est vraiment juste tu mourras pas seul et tu mourras pas dans la rue.
D'accord. Bon, bah écoute, j'ai envie de dire, on donne un point bonus à Sœur Emmanuelle.
Oui, on donne un point bonus à Sœur Emmanuelle.
On finit sur un match nul qui préserve la dignité de tout le monde.
De chacune.
Et la nôtre aussi.
Carrément. Parce que c'est vraiment deux femmes qui ont beaucoup donné.
Et puis on va laisser surtout chacun se faire son idée après tout.
C'est ça.
Bon, bah merci beaucoup Noémie.
Merci.
Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
On peut me retrouver sur So80s, sur Parenthèse, et des fois sur Multimorphose, des fois avec toi même.
C'est vrai.
Voilà, où on parle de choses diverses et d'autres, et voilà. Donc, dans le podcast francophone, des fois, je traîne un peu mes guêtres.
Très bien. C'est qui le plus fort est un podcast Micro-Stockholm. Vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions Micro-Stockholm sur www.microstockholm.fr. Vous pourrez voter également pour Sœur Emmanuelle ou Mère Teresa si vous voulez rétablir l'équilibre, si vous estimez que, ou plutôt pour désétablir l'équilibre, puisqu'on on est arrivé à un point d'équilibre. Et puis vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, notamment dans le groupe Facebook l'Agora de Micro-Stockholm, où on pourra prolonger la discussion si vous voulez, ça peut être très intéressant. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet qui n'est absolument pas déterminé, et d'ici là portez-vous bien.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.